Romain Puertolas, bonjour.
Bonjour Niki, comment vas-tu ?
Mais je vais très bien, je vais très bien. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ? C'est votre nouveau roman, chez Albin Michel. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, forcément. Et là, vous le remettez au goût du jour, mais d'une façon complètement extraordinaire, puisque vous mettez en scène dans le livre, en étant écrivain, vous prenez un peu la place de celui qui va commettre quelque chose, on ne va pas tout dévoiler bien entendu, mais c'est surtout une obsession chez vous depuis très longtemps. On rappelle quand même qu'avant d'être romancier, vous étiez dans la police, capitaine de police, et que cette affaire vous a profondément marqué. Alors, la naissance du livre, je vais pas vous la demander, puisque c'était obsessionnel chez vous, mais l'idée de se mettre enceinte, par contre, ça c'est quand même assez nouveau.
Oui, c'est assez nouveau pour moi, en tout cas, puisque je ne l'ai jamais fait. Dans aucun de mes livres, je crois que j'ai 10 livres hein, qui ont été publiés, dans aucun, je ne me mets en scène. Bon, on trouve toujours un petit peu de moi hein, dans le fakir ou dans d'autres personnages, ça c'est normal. Mais vraiment, me mettre en scène, moi, Romain Puertolas, dans le livre, c'est la première fois que je fais ça. Mais en même temps, ça me paraissait très naturel, puisque c'est effectivement l'enquête de Romain Puertolas, le policier. J'étais jeune policier à l'époque, en 2011, j'étais jeune lieutenant de police. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, puisque tu parles de toi, c'est ton enquête, on ne va pas changer le nom. Et donc, je garde mon nom. Et je suis devenu un petit peu un personnage de ce roman, un petit peu beaucoup d'ailleurs, hein, puisque dans ce roman, on peut dire qu'il y a deux personnages principaux. C'est Xavier Dupont de Ligonnès et c'est moi. Voilà, nous sommes les deux rivaux. Espèce de Sherlock Holmes et Moriarty, si on veut. Donc je suis le policier, il est le criminel, et je vais tout faire pour le retrouver. Donc voilà, oui, première fois. J'ai eu des doutes au début, parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit presque de me mettre en scène ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui le font, ça s'appelle l'autofiction. Moi j'aime beaucoup Philippe Jamenada, Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère,
ils font beaucoup ça.
David Fuenkinos aussi. Et j'aime beaucoup ça et je me suis dit, je vais le faire moi aussi parce que là c'est vraiment légitime, parce que c'est vraiment ma vie, un morceau de ma vie. Et donc voilà, ça a donné ce roman.
Alors c'est vrai que vous allez mener cette enquête en tant que policier, en tant que romancier, vous allez y mettre de la fiction, beaucoup d'humour, de la déraison, c'est très décalé, c'est jouissif en même temps parce qu'on a cette image du policier et en même temps du romancier, vous mélangez les genres. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est les pages du début, parce que là, directement quand on est avec ce couteau à bord et que vous êtes interviewé dans ce tribunal, ça, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Et ça, c'est quand même, je vais dire quelque chose de... c'est un défi, parce que sur un sujet hyper grave comme celui-là, quand même, ça a marqué les esprits, vous arrivez à nous faire, pas oublier, mais à nous, je vais dire, à nous procurer un apaisement presque, parce que c'est pas facile comme histoire à raconter. Et là, d'emblée, vous mettez quelque chose qui va... nous soulageons, on n'est pas trop coupable et il n'y a pas de voyeurisme dans l'histoire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc ça, c'est tout un travail aussi.
Oui, c'est ça. Je voulais mettre du monde parce que moi, je suis comme ça. Les lecteurs qui me suivent savent que j'écris des choses dramatiques, terribles, mais toujours sous le prisme de l'humour, parce que, je ne sais pas, ça doit être une défense chez moi de parler de choses sérieuses de manière humoristique pour essayer d'enlever un petit peu de la gravité. Je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas la gravité, j'aime pas le sérieux, même si je suis quelqu'un de très sérieux, de responsable, mais je préfère l'humour, on va dire. Et puis l'humour interpelle toujours, on se dit, mais comment on peut parler d'un sujet aussi grave avec de l'humour mais en fait, si vous regardez, je me mets en autodérision, j'adore beaucoup, voilà. Me moquer, mais me moquer aussi de moi. Et dans ce livre, je me moque de moi énormément. Je me moque de Xavier Dupont de Ligonnès. Et voilà, par contre, les victimes, ce qui est vraiment le côté terrible de cette histoire, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même 5 personnes qui sont mortes, dont des enfants. Et ça, c'est terrible. J'essaie de ne pas y penser. Et effectivement, alors c'est sûr, il n'y a pas d'humour là-dessus. Voilà. Tout cet humour que j'ai va être dévié sur d'autres choses, qui sont Ligonnès et moi.
Tout à fait. Alors justement, quand on mène cette enquête, au début, les premières pages, vous avez l'impression de le voir chez votre voisin, parce que votre voisin loue sa maison en Airbnb, et vous avez cette impression que c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui est là. Et puis de là part l'idée, évidemment, qu'il est quelque part, et vous allez comme ça entraîner le lecteur dans toute cette enquête en mettant des dates, en mettant des faits. D'ailleurs, vous expliquez même, c'est ce qui est trop rigolo, c'est qu'à un moment donné, il est un amateur de pastis comme vous. Donc, vous donnez des détails qu'on ne sait pas forcément. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Vous mélangez tellement bien la réalité avec cette fiction qu'on s'y méprend, on se dit, mais finalement, on réfléchit, on dit, mais est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Donc, il y a tout un travail de recherche. Vous avez dû accéder à des dossiers. Comment ça s'est passé pour tout ce squelette du livre, finalement?
Oui, parce que vous avez le côté fiction. Alors là, c'est tout imaginé. Je suis dans l'Ariège, dans une maison que j'ai retapée. Et effectivement, un jour, eh bien, je vois Xavier Dupont de Ligonnès sur la terrasse d'à côté d'une maison abandonnée. Donc, toute cette partie-là est fictive, bien entendu. Et je mélange avec ma véritable enquête de policier. Donc là, tout est vrai. Effectivement, Ligonnès est un amateur de pastis. On a retrouvé du pastis dans beaucoup d'éléments en fait de l'enquête, dans la voiture, la C5 qui est dans le parking, on retrouve une bouteille de pastis. Voilà, donc effectivement, ça c'est vrai. Et ça c'est un point commun qu'on peut dire qu'on a. Donc tout ce qui est de l'enquête est véritable. Dans la police, on a beaucoup de contacts. Moi j'avais des collègues qui étaient, des collègues, des personnes qui étaient vraiment chargées de l'enquête. Moi je n'étais pas chargé de l'enquête puisque j'étais dans la police aux frontières. Et il faut savoir que le service de police qui était saisi pour ça, c'était la PJ de Nantes, hein, en particulier, même s'il y a eu quelques procès-verbaux qui ont été faits par la PJ de Versailles ou par la PJ de Montpellier quand il y a eu des apparitions, justement. Il faut dire que Ligonnès est apparu un petit peu partout. C'est pas qu'une histoire qui s'est passée à Nantes. Les assassinats ont été commis à Nantes. Mais ensuite, c'est une personne qui s'est déplacée, qui est passée par Toulouse, qui est passée par Roquebrune-sur-Argent. Voilà, donc il y a plusieurs qui a été vu à Versailles aussi, où sa mère et sa sœur résident toujours. Donc, il y a plusieurs services de police. Tout ça, ça a été fait par beaucoup de contacts, donc j'ai eu accès à des pièces. Et puis après, il y a l'enquêteur, c'est-à-dire mes théories à moi, mes pistes. J'explique par exemple ce qu'il est allé faire dans la forêt après avoir disparu du Formule 1. Personne n'en a parlé, et pourtant, moi, c'est la chose évidente. Et donc, j'en parle, on va pas dire pour laisser quelques surprises au lecteur, mais j'apporte aussi des pistes et puis j'apporte aussi ma grande connaissance des frontières. Moi, j'étais chef adjoint de l'unité d'analyse stratégique de l'OCRIEST, c'est un office central qui lutte contre l'immigration irrégulière, et donc j'avais une grande connaissance du passage de frontières de manière illégale. Donc je donne au lecteur des pistes, j'explique comment il aurait pu faire sans donner le mode d'emploi, évidemment. Mais j'explique ce qui est plausible et ce qui est possible de faire et comment il a pu atteindre les États-Unis, par exemple, en 2011, de manière assez, on ne va pas dire facile, mais quelque chose qui est possible, voilà, de faire. Et donc tout ça, c'est effectivement mon expérience d'enquêteur. Et puis après, les choses où je me heurtais à un mur, où, eh bien là, il y avait l'écrivain qui est en moi qui prenait le relais et puis aussi qui comblait les trous entre les apparitions supposées de Ligonnès. Mais aussi, ça me donnait une opportunité de pouvoir être dans la tête de Ligonnès. Il y a des passages, il y a des chapitres dans lesquels on est avec lui. On est dans le camping-car avec lui, on fuit, il fait de l'autostop. Voilà. Et là, on est vraiment dans une réalité qui est romancée. Tout est possible. Ça a pu se passer comme ça. Donc voilà, je trouvais que la casquette du policier et de l'écrivain, finalement, se complète assez bien.
Tout à fait, dans la peau d'un flic.
C'est ça.
C'est vrai qu'il y a aussi votre côté obsessionnel. Le fait d'avoir écrit cette histoire et de se dire, bon, maintenant elle est là, est-ce que ça vous a un peu apporté la sérénité? Vous êtes toujours aussi affamé de découvrir où il se cache, parce qu'il est toujours en vie, selon votre idée. Pourquoi serait-il mort? Effectivement, il est peut-être aux États-Unis. Cette soif de savoir où il se trouve, et peut-être qu'un jour on va le coincer, ça fait partie de ce que vous espérez vraiment, en fait. Parce que le livre, il a relancé l'enquête, quelque
Oui.
part.
Ma soif ne peut pas être étanché puisque on ne l'a pas retrouvé. Or, je ne pourrais être satisfait que lorsque je l'aurai retrouvé ou qu'on l'aura retrouvé. En tout cas, voilà, lorsqu'il y aura une fin à cette affaire. Malheureusement, je pense qu'il ne va plus commettre d'erreur maintenant, 13 ans sont passés quand même, ce serait idiot et un peu inespéré qu'il commette une erreur maintenant. Donc pour moi, il va mourir dans l'anonymat le plus complet, c'est-à-dire que voilà, on ne saura plus jamais, il va mourir tranquillement quelque part dans le monde, là où il est. Et puis voilà, ça c'est ce à quoi il faut s'attendre en tout cas.
Mais vous pensez vraiment qu'on ne le retrouvera jamais parce que physiquement, peut-être il a changé, il a modifié son aspect, parce qu'il se cache très très bien, parce qu'il y a comme ça des meurtriers qui sont retrouvés à un moment ou à un autre. Ça existe.
Ça existe, oui, bien évidemment. Il y a toujours cet espoir. Mais vous savez, vu tous les témoignages que je reçois depuis la sortie du livre, il faut savoir quand même que depuis que le livre est sorti, énormément de personnes me joignent sur Instagram et m'envoient des photos. Ils sont persuadés d'avoir vu Ligonnès, d'avoir pris en photo. On m'envoie des photos, c'est vraiment pas lui du tout. On me donne des témoignages, mais des témoignages qu'on peut raccrocher à rien ou qui sont trop vieux pour être exploités, donc ils ne servent à rien. Alors, je ne décourage pas les gens, moi, au contraire.
Oui, parce que tout peut être source...
Oui, et d'ailleurs, sur 100% de messages qu'on m'a envoyés, eh bien, il y a eu 1% que j'ai pu exploiter, de choses avérées, voilà. Le reste, non. Mais, voilà, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir une piste nouvelle. Donc, effectivement, moi, je suis content que les gens, maintenant, viennent plus vers moi que vers la police judiciaire, on va dire. C'est ça, les gens, ils ne savent pas vers qui aller, en fait, si un jour ils le voient. Mais... Alors déjà, je ne pense pas que Ligonnès ait fait de la chirurgie esthétique. C'est très romanesque dans la vraie vie. Les fugitifs ne se font pas de chirurgie esthétique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Comme je l'ai dit, les gens sont très peu physionomistes. Et j'en ai la preuve quand je reçois des photos de gens convaincus qui l'ont pris en photo et que ce n'est vraiment pas lui. Je vous défie, vous avez pu manger à côté de Ligonnès un jour et vous n'en avez pas aperçu en fait. Vous savez, les gens, ils s'attachent à deux, trois choses.
Et puis ils oublient.
Et puis ils oublient, puis il a vieilli, et puis voilà, on pense à un mec avec des lunettes. Alors, il a peut-être plus de lunettes, vous savez. On a besoin de changer très peu d'aspects, en fait, pour ne plus se ressembler. Moi, j'ai beaucoup d'expérience en ça, parce que dans la police, moi, je me rappelle d'un jour, on avait fait une simulation vers Fécamp, en France. Donc. On avait fait une simulation et j'avais joué un criminel, en fait. Personne ne le savait au service. C'est-à-dire mon service de police, personne ne le savait. Seul l'organisateur de la simulation. Il m'a dit, tu veux le faire ? Je dis, ouais, je vais le faire. J'ai changé mon aspect. Attention, je n'ai rien changé de mon visage. Je m'étais juste laissé pousser la barbe. Alors qu'en général, au service, j'étais toujours rasé. Voilà, c'est tout. J'ai juste changé mes vêtements. Et ça fait énormément. Parce qu'au service, moi, j'y allais toujours en costume cravate. Et d'un coup, je suis en survêt et avec un bonnet et avec une barbe. Voilà. Et bien, personne ne m'a reconnu. Personne. C'est des flics. Et on se voyait tous les jours. Et j'ai été dans la simulation. J'ai joué le criminel. Alors, je n'étais pas en conversation. Mais il me voyait à 8 mètres, 9 mètres, passer et faire un petit trafic et tout ça. Personne ne s'est dit, mais ce mec-là, c'est Romain. Alors, imaginez, là, on est en train de parler de flics qui me connaissent. Alors, imaginez le grand public qui a jamais vu Ligonnès de sa vie vivant, je veux dire, en train de bouger. On a vu des photos, une photo. C'est très difficile de repérer quelqu'un avec une photo d'une personne qu'on n'a jamais connue, en fait. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu plus de 1000 apparitions de Ligonnès un peu partout dans le monde, parce que tout le monde est persuadé de le voir. Et je dis, le contraire est vrai, c'est-à-dire que vous avez pu manger à côté de lui sans jamais vous dire, ce mec-là, c'est Ligonnès.
Voilà. D'autant plus qu'on ne fait pas toujours attention, aujourd'hui, dans notre société, des gens qu'on croise et qu'on est plus individuel que, je vais dire, quand on voit quelqu'un, on ne le voit pas vraiment. Aujourd'hui, on est tous braqués dans nos téléphones.
Voilà ce que je voulais dire.
Il y a aussi ce problème. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous racontez cette histoire avec beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup de compassion, beaucoup d'humanisme aussi. Il y a le côté humain qui... Finalement, ce qui nous a, nous, comme le monde entier qui a connu cette histoire, perturbé, c'est ce crime. Je ne sais pas si on dit crime, assassinat. Ça nous a rendu je vais dire, humainement parlant, on s'est dit, c'est un drame épouvantable. Comment un père, un mari peut faire ça? Je ne sais pas pourquoi ce crime-là, enfin cet assassinat-là, nous a plus touchés peut-être que les autres, parce qu'il y en a beaucoup, des crimes, des assassinats. Mais celui-là en particulier, pourquoi? Parce que c'était une famille honorable, parce que il y avait cette harmonie. Je sais pas, quand on voit les photos, c'était quand même une famille très belle, magnifique. Pourquoi? Et aussi, je vous pose la question, pourquoi on s'intéresse tant à cette histoire? On s'est intéressé tant et qu'elle interpelle encore aujourd'hui par rapport à d'autres histoires qui se sont passées?
Oui, parce que ça, je vais peut-être vous dire quelque chose d'étonnant, mais apparemment, Ligonès était un père très, un papa poule, un père très aimant de ses enfants.
Vous comprenez, vous, ce geste-là?
Alors, je le comprends parce que moi je suis flic et un flic comprend tout, en fait. Nous, on juge pas, vous savez. On a des faits et on sait que tout le monde est capable de tout. Vous savez, pour moi, tout le monde est un assassin potentiel. Il suffit juste des circonstances qui fait que vous passiez à l'acte. Voilà. Mais pour moi, tout le monde peut tuer. Ça n'existe pas le ah, oh, il peut pas, il tuerait pas une mouche. Mon voisin était tellement gentil, tout ça. Ça, pour moi, c'est de la connerie. Tout le monde peut tuer. Une mère peut tuer quelqu'un pour protéger son enfant. On l'a vu, on le verra. Il y a des guerres, il y a des gens qui font des choses insensées
Oui,
pendant la
tout
guerre.
à fait.
Voilà. Donc là, on a effectivement une personne qui était très aimante. Moi, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont connu les enfants et qui ont connu Ligonnès et qui me disaient, c'est un père qui aimait beaucoup ses enfants et tout ça. Et ça, je le comprends. Et quand on voit les photos et tout ça, on le comprend. En fait, on a affaire à quelqu'un qui était quelqu'un, monsieur tout le monde, une famille effectivement bourgeoise, assez noble, très catholique. Mais on va dire, voilà, monsieur, madame, tout le monde, en fait, c'est une famille qui s'aime et voilà. Sauf qu'on a un mec qui a un caractère un petit peu spécial. C'est quelqu'un qui est très solitaire, qui passe presque toute la semaine hors de chez lui. Il faut savoir que les voisins ne connaissaient pas Xavier Dupont de Ligonnès. C'est quand même assez ahurissant. On connaissait Agnès, on connaissait les enfants. Mais ce mec-là qui venait passer le week-end et qui repartait, on le connaissait presque pas. C'est fou. Bon, on a un mec qui est très solitaire, qui passe sa vie sur les routes. C'est un commercial. Vous savez, être commercial, moi j'en connais, j'ai des potes qui sont commerciaux, ils ont une psychologie différente, on va dire. C'est des gens qui sont solitaires, mais qui leur faut du mouvement. Vous voyez, ils ne peuvent pas s'enraciner avec. Or lui, bah, c'est le contraire. Il a une femme, il épouse une femme, il a quatre enfants. Je veux dire, quand vous êtes un solitaire, vous essayez de ne pas avoir autant de racines que ça, quoi. Bon, et il fait tout ça. Et c'est quelqu'un c'est un magouilleur, c'est quelqu'un qui a toujours été endetté, qui, dès qu'il a eu de l'argent dans les mains, il l'a dépensé. Et on l'a vu sur beaucoup de choses. Là, il a pris de l'argent à une ancienne maîtresse, à son père, à ses amis, pour injecter dans une société qui crée. Il faut savoir qu'il crée des sociétés. Il avait toujours des supers idées, mais qui fonctionnaient jamais, en fait. Ce qu'on appellerait un loser, quoi. Vous savez, quelqu'un qui essaye de. Et qu'est-ce qu'il faisait dès qu'on lui donnait de l'argent pour injecter dans l'entreprise, pour son projet? Eh bien, il le dépensait en conneries. Il allait bouffer dans un restaurant 5 étoiles. Il offrait une voiture de luxe à sa femme. Voilà. On n'est pas devant quelqu'un de responsable. On est devant le flambeur, devant le magouilleur, le beau parleur. C'est quelqu'un qui était très beau parleur, qui était un séducteur, on va dire, un mec qui veut toujours attirer le bon regard sur lui, qui affabule, qui invente des trucs. Il faut qu'il invente des trucs. S'il veut qu'on leur donne de l'argent, vous voyez, il est obligé d'inventer des trucs. Donc on est, voilà. Et puis un jour, il est vraiment endetté. Là, il peut plus aller plus loin. Il y a son ex-maîtresse qui lui a passé 50 000 euros et qui veut vraiment les récupérer. Elle fait appel des avocats. Il y a le notaire. Il y a un notaire qui a un huissier qui est venu la semaine, une des semaines avant les assassinats et tout ça. Là, il est vraiment au pied du mur. La vérité va éclater. Il peut plus rien faire. Il peut plus. Il va perdre la face. C'est un mec qui aime pas perdre la face, qui veut pas perdre la face. On l'a vu plusieurs fois dans sa relation. Dans des lettres qu'il a écrites pour les amis et tout ça. C'est quelqu'un qui, voilà, il est acculé complètement. Il se dit, en fait, ma famille, c'est un poids. J'ai une femme qui m'aime plus, voilà, qui me juge en permanence. Je dépense l'argent, c'est vrai. Le mec, il le sait, qu'il dépense son
Ouais,
argent là-dedans
évidemment.
et que sa femme, elle ne l'admire plus. Or, dans l'amour, et on en parle aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, dans l'amour, c'est quand vous admirez la
Oui,
personne
faut
avec qui
être
vous êtes.
admiratif, en
C'est ça.
effet.
Là, il n'y a plus d'admiration. Et puis ces enfants, ils voient plus maintenant comme un poids. Ils sont grands, ça va lui coûter l'université, le machin, le truc. Ah oui, d'avoir des enfants, ça coûte de l'argent. Du coup, ce mec-là n'a plus d'argent. Quelle est la solution? Il faut éliminer cette vie-là, ça va plus. Et il reçoit, son père meurt, et il reçoit, hop, il trouve dans l'appartement, dans la maison de son père, un fusil. Et là, je pense que c'est le truc.
Le
Le
déclic.
déclic. Parce que s'il n'y avait pas eu le fusil, ça aurait été très compliqué. En France, c'est très compliqué de se procurer des armes. Ça existe dans les milieux du grand banditisme, oui, dans la petite délinquance des banlieues, oui, et tout ça. Mais ce mec-là n'a rien à voir avec ce
Non,
monde-là.
non, non,
C'est
non.
monsieur tout le monde. Il n'a aucun accès à ça. Donc voilà. Et d'un coup, il voit ça comme un signe. Il faut savoir qu'il est très religieux, tout ça. Je pense qu'aussi, ah bah Dieu m'offre la
La
solution.
possible, oui.
Parce qu'il faut savoir qu'il les a tués. Il leur a fait des rituels et puis je pense qu'il est persuadé qu'il les a envoyés au paradis, exactement comme John List, c'est un Américain qui avait fait exactement la même chose et qui se disait de toute façon je les ai envoyés au paradis. Vous voyez dans quelle
Donc, vous
sorte
pensez
de
qu'il
discours
n'a
on
pas de
est.
regrets alors aujourd'hui? C'est
Ce serait
difficile.
difficile, alors je ne suis pas psychologue, attention,
Non.
mais en essayant de me mettre à sa place, je dirais évidemment que j'aurais des regrets, mais j'ai dû le faire, j'ai pas eu d'autre solution et je l'ai fait. Oui, je le regrette et il me manque et tout ça. Mais il essaye de plus y penser, d'oublier. Il essaye d'enlever cette culpabilité, de se dire j'étais obligé, je pouvais rien faire d'autre. Vous voyez, il est obligé de s'autoconvaincre. Les gens qui mentent aux autres, ils doivent se mentir à eux-mêmes pour croire en leur mensonge. C'est la base du mensonge. Et lui, il est dans ça. Donc, mais je pense qu'il en souffre parce que c'était un père et obligatoirement après avoir fait ce qu'il a fait, je suis sûr qu'il en souffre, qu'il y a un minimum de lui qui en souffre un peu.
Vous
Je ne
pensez
peux
qu'il a
pas vous
refait
donner.
sa vie aujourd'hui?
Alors je pense que la meilleure chose à faire pour oublier tout ça, effectivement, c'est de tomber amoureux d'une femme, d'une autre personne et refaire une vie. Oui, bien
Et qu'il est
évidemment.
possible qu'elle ne soit au courant de rien.
Bien
Maman,
évidemment. Surtout si c'est aux
si c'est aux
États-Unis,
États-Unis.
en Espagne, n'importe où, personne n'est au courant de cette affaire. Il peut facilement refaire sa vie, oui, ça c'est évident. Ouais. Et c'est la meilleure chose à faire pour lui. Sinon, dans ce cas-là, oui, effectivement, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est se flinguer. Non, il faut qu'il revive, il faut qu'il reparte, voilà, à zéro, ailleurs.
C'est quand même une histoire incroyable. D'abord le livre, et puis de nouveau, c'est partout dans les médias pour le moment, ici en tout cas en Belgique, en France, partout où vous allez. Ma dernière question peut-être, c'est, vous avez envie qu'il le voie ce livre, en tout cas qu'il sache qu'il y a quelque chose qui est relancé?
Oui, bah, c'est évident que là j'y pense beaucoup parce que je fais énormément de médias, de télévision, de radio. Là c'est vraiment dur de passer, on va dire, à côté du livre. Et avant j'y pensais pas vraiment. Hein. Quand je l'ai écrit, il n'y avait aucune. Mais là en ce moment, je me dis, mince, ça m'a un peu échappé des mains tout ça. Ce qui est un peu contre-productif pour moi, puisqu'il y a des pistes que j'utilise et qui, s'il les lit, il peut donc changer de. Voilà. Mais j'essaye de pas en dire trop non plus. Mais. Moi, si j'étais à sa place, de temps en temps, effectivement, sur Google, je taperais mon nom pour voir si on m'a oublié ou s'il y a. Et là, en ce moment, s'il tape son nom, effectivement, il va tomber sur lui, il va se dire, merde, on m'a pas oublié. En plus, il y a un flic qui est derrière et machin. Et donc, oui,
Il est peut-être de nouveau en panique.
Ouais, bah c'est oui, ça pourrait être le cas. En tout
Ça
cas,
peut être le cas.
soit il est très tranquille dans un endroit où il sait qu'on ne viendra pas le chercher. Soit il sait que sa liberté est maintenant un peu plus réduite, peut-être qu'elle l'a été pendant ces 13 ans où on ne le recherche pas activement, puisqu'on ne peut pas le rechercher activement, c'est pas possible. Il faut arrêter de regarder les séries de télé dans lesquelles les flics se lèvent le matin et élucident en une heure et demie l'affaire. Non, vous voyez, ça fait 13 ans. Maintenant, plus personne se lève le matin en se disant je vais choper Ligonnès parce qu'on n'a pas de piste fraîche. Il peut être n'importe où dans le monde, on ne peut pas le chercher. Donc voilà, donc là, il est tranquille. Mais effectivement, s'il tombe sur notre interview, là,
On ne sait jamais.
il
Elle
saura que
sera
je
de toute
continue.
façon sur Internet. D'ailleurs, vous avez écrit, enfin repris cette phrase de Victor Hugo, Des Misérables, celui qui s'évade ne se croit jamais assez caché. Et c'est tellement vrai. Ma toute dernière question, parce qu'on parlerait des heures avec vous de ce livre de Ligonès. Pourquoi est-il aussi présent dans votre esprit depuis autant d'années, encore peut-être plus maintenant avec ce livre? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi cet homme-là qui a commis ce geste-là C'est...
Bah, pour plusieurs choses, pour l'enquête, qui est une enquête assez passionnante, puis une enquête de disparition, c'est-à-dire qu'on cherche toujours, il n'y a pas de fin. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, il y a toujours la disparition. Ça engendre le mythe, ça engendre, la rumeur se propage. On invente plein de choses pour combler ce vide. L'être humain a horreur du vide. Donc on comble avec des histoires. Donc il y a ça qui me passionne. Il y a les points communs que je me suis trouvé avec lui, comme on disait un petit peu avant, mais il y a aussi le fait que moi j'ai toujours été un caméléon. J'ai adoré, dans ma vie, j'ai changé d'identité sans changer de nom, et de manière légale, mais j'ai changé d'identité énormément de fois. En 30 ans, j'ai déménagé plus de 39 fois. J'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai appris, je parle plusieurs langues. J'adore ça. Pour moi, c'est une nécessité de renaître ailleurs de manière différente. Car je suis persuadé qu'on n'a qu'une seule vie sur Terre et qu'il faut en profiter. Moi, c'est pour ça que j'ai fait énormément de professions. J'ai passé des concours, j'ai fait des diplômes, des choses complètement différentes. Vous verrez mon CV, c'est ahurissant. Parce que j'ai une grande curiosité, en fait, et j'ai envie de m'amuser tout le temps. Je voulais être agent secret, donc un agent secret doit savoir piloter un hélicoptère, et piloter une moto, un bateau. Vous voyez, j'étais là-dedans. Mon père était militaire et il m'a toujours. Lui, il était chef du renseignement militaire. Et donc, j'ai toujours vécu un peu dans un James Bond idéalisé, parce que je me suis aperçu que c'était pas ça. Parce que je suis entré à la DGSE quelques temps et j'ai vu que c'était vraiment pas ça. Mais c'est ça qui m'a toujours porté à apprendre beaucoup de choses de manière et de choses différentes, vraiment très hétéroclites. Et lui, il a ce côté caméléon aussi, de quelqu'un qui. Moi aussi, je suis dans la séduction avec les gens. Je veux qu'ils me regardent bien. J'ai fait des interviews pour des embauches de travail. J'ai travaillé un peu partout où j'avais aucune qualification. Mais dans le regard, dans le sourire, dans le fait d'être très sûr de soi, de parler des langues et tout ça, moi, je le dis aux jeunes toujours, dans la vie, il faut sourire et parler plusieurs langues. Et ça, avec ça,
Ouais,
vous mangerez le monde.
partout.
Moi, j'ai toujours eu ce que je voulais grâce à ça. Et lui, il est un peu dans ça. Il est dans la séduction toujours avec. On ne parle pas de la séduction
Non,
homme-femme,
non, non,
machin.
non,
On
mais
parle
la
dans une
séduction,
séduction, voilà,
ouais.
au titre grand, c'est-à-dire avoir besoin de l'aval des gens.
Ouais.
Être bien
Résister,
vu,
ouais.
exactement. Et caméléon, il parle plusieurs langues, hein, l'anglais et l'espagnol. C'est un solitaire, comme on l'a dit avant. Voilà. Donc je me suis retrouvé dans beaucoup de
Ouais.
choses comme ça. C'est pour ça que je me suis dit, je peux peut-être trouver où il est. Si
Oui.
je... Et c'est un petit peu, vous savez, le syndrome de la chèvre, on va dire, le film avec
Oui,
Pierre Richard,
absolument.
qui, pour rappeler, un entrepreneur à sa fille qui se perd dans un pays, je ne sais plus où c'est, à l'étranger. Et elle est très malchanceuse. Et dans ce cas-là, il va recruter Pierre Richard, qui est quelqu'un de très malchanceux. Et il se dit, si je l'envoie dans ce pays-là, je suis sûr qu'il va tomber sur elle, parce que tous les deux sont aussi malchanceux l'un que
Oui.
l'autre. Et en
Oui,
fait,
ça
j'ai un
arrive,
petit peu
oui.
ça, moi. Je me dis, on a quelques points communs, et peut-être que je peux, avec ma connaissance des frontières et tout ça, peut-être que je peux tomber sur lui. Donc voilà, c'est peut-être tout à fait illusoire, mais en tout cas, c'est ce
On
qui
ne
me...
sait jamais. En tout cas, on espère que vous allez rester écrivain, que vous allez garder cette belle profession, parce que nous, on vous adore, on adore vous lire, parce que vos livres sont toujours excessivement drôles, mais en même temps avec des sujets passionnants et parfois des sujets dramatiques comme celui-ci. Merci beaucoup, Romain
Merci
Puertolas,
beaucoup.
pour ce nouveau roman Chalbin Michel, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et c'est à lire, c'est extraordinaire.
Merci.
Merci.
Merci.